Ben l'épouser.
D'abord, une fois qu'il a commencé.
Non, c'est bon, tu
peux tout de suite.
C'est très bien.
Le pied, c'est ça, je peux faire un gros problème avec le micro.
Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je voudrais remercier notre frère Hassan Iflousen donc d'avoir répondu à notre invitation malgré un retour du pèlerinage qui, j'imagine, ne doit pas être de tout repos. Ensuite, je vous remercierai, vous, donc les frères et les sœurs, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le frère Hassan donc, commencer la conférence. Barakallahu fikoum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans la sourate At-Tawba, la 9e du Coran, celle qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit dans cette sourate, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Dans la sourate An-Nur, la 24e sourate La Lumière, Dieu dit, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bien, connaissez, الحمد لله. Et dans la sourate الجن, les jnoun, ça vous dit quelque chose? Les jnoun, non? Vous connaissez? Vous voulez qu'on en parle? Les jeunes, ils aiment bien quand tu parles des jnoun. Surtout le soir, vers minuit. Je pourrais parler jusqu'à 5h du matin, parce que c'est du domaine du fantastique. C'est ça, de l'irréel. Donc Dieu dit dans la sourate El-Jin, qu'est-ce qu'il dit à propos des mosquées? Ah, qui va trouver le verset? Yallah, allez, le plus balèze parmi vous. Oui? Non. Oui. Ah, ça vient de pas n'importe qui, c'est normal. Inna al-masajida lillahi, fala tad'u ma'allahi ahada. Donc, trois versets du Coran qui vont servir de base pour cette intervention sur l'importance, notre engagement, l'importance de notre engagement dans la mosquée. Vous savez tous que la mosquée, elle masjid, on dit en arabe, elle masjid. Et au lieu de traduire le terme masjid, on l'a retranscrit phonétiquement en faisant n'importe quoi. Parce que normalement, si tu transcrit le terme arabe masjid, en français ça doit donner quoi? Masjid. Non, je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre masjid en arabe et en faire mosquée. Mosquée masjid, ça n'a rien à voir. Comme Mohammed. Au lieu d'écrire M-O-H-A-M-A-D, ils t'ont écrit Mahomet. Ça n'a plus rien à voir. Ils sont balèzes pour écorcher les noms, pour les transformer, les dénaturer. Ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Le terme masjid est devenu mosquée. En vérité, masjid signifie le lieu, l'endroit où l'on se prosterne. D'accord. Un endroit où l'être humain se prosterne. Et la prosternation, c'est l'expression la plus puissante de la soumission de l'être humain à Dieu. Notre manière de montrer que nous sommes soumis à Dieu, qui est la plus révélatrice, c'est quoi ? C'est tu te prosternes, tu mets ta tête par terre, tu t'écrases, tu te fais tout petit. Et aucun être humain n'acceptera de se prosterner devant un autre être humain. Sauf si tu manques une case, et tu as un gourou qui t'a mis dans le gaz, et qu'est-ce que tu fais ? Tu te prosternes devant lui. Mais si tu es normalement constitué, tu n'accepteras pas de te prosterner parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu te soumis, tu n'existes plus. L'autre, il a les pleins pouvoirs sur toi. Et nous, musulmans, nous croyons qu'il n'y en a qu'un qui a les pleins pouvoirs sur nous, c'est Allah. Pour ça, on n'a pas le droit de se prosterner devant quelqu'un. Quelle que soit cette personne. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il avait été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen pour avertir, inviter les gens à se convertir à l'islam. Et il a réussi. Quand il est revenu du Yémen, qu'est-ce qu'il a fait, Mu'adh ? Il a voulu se prosterner devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi il a voulu se prosterner ? Il a dit, Ya Rasulullah, quand nous étions au Yémen, nous avons remarqué que les gens se prosternent devant leurs supérieurs religieux. Les ouailles, monsieur tout le monde, se prosternent devant leurs supérieurs. C'est comme si nous aujourd'hui on se prosternait devant l'imam. Alors, ô envoyé de Dieu, toi, tu es the best, the greatest, c'est ça ? Le plus grand, c'est le prophète, alayhi salam. Si eux, ils se prosternent devant quelqu'un de tout petit, qui ne vaut pas grand-chose, alors nous, nous devons nous prosterner devant toi, parce que toi, tu le mérites. Est-ce que le prophète en a profité pour leur dire « Allez, allez voir, super, je les ai bien eus, je les ai bien arnaqués, regardez, ils vont se prosterner devant moi. » Ça, c'est la preuve qu'il est prophète. Parce que si c'était un être humain comme les autres, qu'est-ce qu'il leur dirait ? Il leur dirait « Oh, tout compte fait, c'est vrai, moi je suis mignon, je suis beau, je suis balèze, je suis grand, je suis intelligent, je suis fort. » Même, il dit rien, il n'aura rien demandé, il n'aura pas dit « prosternez-vous ». Ils l'ont fait, du moins, Mu'adh a voulu le faire de lui-même, par amour, par respect, par révérence. Mais qu'est-ce qu'il lui dit le prophète ? Il lui dit « Niet, niet, je suis un être humain comme vous. » Ma mère, elle mangeait de la viande séchée. D'accord ? Je fais partie du peuple. Je mange comme mange un esclave. Je m'assois comme s'assoit un esclave. Si quelqu'un devait se prosterner devant quelqu'un, ça serait l'épouse devant son époux. S'il y a un être humain qui devrait, qui aurait dû se prosterner par respect, pour exprimer sa reconnaissance envers quelqu'un, ça serait la femme devant son mari, tellement le mari il est important, il a une place. Mais même ça, c'est interdit. La femme, elle n'a pas le droit de se prosterner devant son mari, même si c'est Roméo. Elle l'adore, elle l'aime bien, mais elle n'a pas le droit de se prosterner devant lui. D'ailleurs, elle lui obéit tant qu'il obéit à Dieu, mais s'il lui demande de désobéir à Dieu, elle lui obéit ? Elle ne lui obéit pas. Parce que, point d'obéissance, à un être humain si cette obéissance est en contradiction avec la volonté de Dieu. Non. Comme c'était un vrai prophète, Qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Ne vous prosternez pas devant moi. D'accord? Donc, la mosquée, c'est l'endroit sur terre où les croyants et les croyantes se retrouvent pour faire quoi? Pour exprimer leur soumission à Dieu à travers la prosternation. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur des endroits sur terre, c'est la mosquée. Le meilleur des endroits sur terre, c'est la mosquée. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur? Parce que c'est là où les gens se prosternent le plus. N'est-ce pas? Et c'est là où, en principe, il y a le moins de diables. Hein? Principe. De temps en temps, certains diables, des wa'ari, ils arrivent à se faufiler, à rentrer. Mais quand tu le fais l'adhan, il se barre, shaitan. Et en fonction de la puissance de ton adhan, il s'éloigne. Si l'adhan est faible, il revient plus vite que prévu. Tu fais l'iqama, il se barre à nouveau. Et ensuite, il revient à l'attaque. Et dès que tu dis Allahu Akbar, il essaie de quoi? De te perturber, de te déconcentrer dans ta prière. Il s'appelle Khinzaboun, le traître. Ce shaitan. Qui est présent dans la mosquée pour nous empêcher d'être concentrés. Alors, le meilleur des endroits sur terre, c'est la mosquée. Et le pire des endroits sur terre, c'est où? C'est ça? Le marché. Pourquoi vous rigolez? Il y a raison. Vas-y, rigole Thomas. On a qu'à aller home. Pelleur la rente. Il y a raison 100%. Mais le seul problème, c'est que tu ne vas pas au marché. Toi non plus. Si ou alors? C'est Carrefour, au champ. Ouais. C'est les grandes surfaces. Puisque nous, on ne va plus au marché. D'ailleurs, vous avez un marché à Lyon? Vous en avez un? Bon, c'est pour les vieux. Les jeunes, ils ne vont pas au marché. D'accord? Donc, le pire des endroits sur Terre, c'est où? C'est les grandes surfaces. Ouais. Surtout Noël, fin d'année. Les jeunes, ils sont là-bas. C'est ça? Ils lèchent les vitrines. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est le pire des endroits? Pourquoi? Parce que c'est là où on fait beaucoup de péchés. Normalement, quand tu vas dans une grande surface, tu rentres et dans ta tête, je dois acheter ça, je dois acheter ça, je dois acheter ça, et je me barre. Non. Nous, on y va parce qu'on n'a rien à faire. On veut perdre du temps, c'est ça? On veut tuer du temps. On veut aller se rincer l'œil. Ouais. Ouais. D'accord? On va les regarder, jeter. On va les... Le prophète, alayhi salam, a dit, le pire des endroits sur terre, c'est le souk. Donc, allez-y pour accomplir une mission qui est acheter ce qui est halal et vous barrer. Sauf qu'il peut. Parce que là-bas, les gens se retrouvent et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, ils regardent, tu es tenté, bref. C'est ça le problème. On va passer 2 heures dans une grande surface, au McDo par exemple, on va être bien à l'aise, et la mosquée on l'étouffe. On a du mal à y aller. Et quand on y est, il faut vite se barrer. Comme un poisson hors de l'eau. Vrai ou faux? Comme un poisson hors de l'eau. Par contre, dans le pire des endroits sur Terre, on est à l'aise, on est bien. T'as vu la musique? Il y a une belle musique, hein? Une belle ambiance. C'est beau, il y a des lumières. Hein? Hein, les garçons, il y a beaucoup de filles. Ouais. Vous avez vu comment on a renversé l'ordre des choses? Donc, un, la mosquée, c'est le meilleur des endroits sur Terre parce qu'on s'y prosterne. On est d'accord? 2, le verset dit innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Qui fréquente la mosquée? Ceux qui croient en Dieu. Ceux qui croient qu'ils vont être ressuscités et qu'ils vont devoir payer pour entrer au paradis. Et le prix pour entrer au paradis, c'est la foi et les actes qui découlent de cette foi. Et plus tu seras sincère et plus tu auras fait de bonnes actions, plus vite tu entreras au paradis et mieux tu seras logé au paradis. Celui qui a ça à l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours il se réveille et calcule combien je vais faire aujourd'hui de bonnes actions pour entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va à la mosquée, À chaque fois qu'il fait un pas, il a une hasana, une bonne action, un bon point. Et en même temps, une mauvaise action qui s'efface. Et en même temps, un degré de plus au paradis, un étage de plus au paradis. Donc tu te rends compte, si tu viens de chez toi, et de chez toi à la mosquée, il y a 4000 pas. Ça te fait 4000 hasanats, 4000 bons points, 4000 euros. Ouais. 4000 euros, pour que vous compreniez le... 4000 péchés en moins, d'accord, et 4000 degrés en plus. Franchement, c'est pas le top. Ouais, tu vas à la mosquée, tu fais un aller, tu fais un retour. Mais alors là, si tu vas à la mosquée, comme vous l'avez fait maintenant, pour apprendre ta religion, why. Là, c'est jackpot. La récompense, c'est, tu peux même pas t'imaginer. Il y a un homme qui vient, tout farhan. Il dit, ya Rasulallah, j'ai fait une super affaire. J'ai acheté un terrain, je l'ai vendu et j'ai fait une plus-value. J'ai acheté 1000 euros, je l'ai vendu 3000 euros. Il était content, il a fait business. Qu'est-ce que lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, je vais vous indiquer quelque chose. Si vous le faites, c'est encore mieux que ce business qu'il vient de faire. Donc au moins, ils disent, ouais, vas-y, dis-nous, comment on fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous sortez de chez vous, vous venez à la mosquée pour apprendre un verset du Coran, c'est mieux que ce business qu'il vient de faire. Donc, qui va venir à la mosquée? Ceux qui croient en Dieu. D'ailleurs, comment on appelle la mosquée? La maison de Dieu. C'est ça? Donc, ceux qui viennent à la mosquée, ce sont les invités. Qui c'est qui les invités? C'est Dieu. Vous avez compris la maison de Dieu, ce que ça veut dire? Et que tu es invité par Dieu. Tu viens chez Dieu. La preuve, quand tu veux rentrer dans la mosquée, qu'est-ce que tu dis? Bismillah. Ouais. Et il n'y a personne à l'entrée de la mosquée qui te dit donne-moi ton billet d'entrée, ou là tu dois payer pour entrer, ou bien il te dit donne-moi ta carte d'identité. Personne. Tu rentres et tu es chez toi. Alors, il y a des règles, il faut respecter la mosquée. Mais en tout cas, vous êtes bien d'accord que la mosquée, c'est à personne. La mosquée appartient à Dieu. Elle est gérée par des hommes, mais elle appartient à Dieu. Donc quand tu rentres, tu es chez Dieu. Tu es invité par Dieu. Qui va remplir? Qui va être présent à la mosquée? Ceux qui croient en Dieu, qui ont la foi. Ceux qui croient au jour de la résurrection. C'est ça? Ceux qui font la prière et qui donnent la zakat. Ceux qui ont ces qualités, vous les trouverez à la mosquée. Mais il y en a une cinquième de qualité. Ils n'ont peur que de Dieu. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont peur de rien du tout. C'est parce qu'ils ont peur de Dieu qu'il y a quelque chose au fond d'eux, qui est cette crainte de Dieu qui les pousse à aller à la mosquée. Si ta crainte de Dieu diminue, ta présence à la mosquée diminue. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Ceux qui font ça, qui vont à la mosquée, qui font la prière, la zakat, qui croient en Dieu au jour de la résurrection et qui n'ont peur que de Dieu, eux, ils sont sur le droit chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ne sont pas sur le droit chemin. Et oui, on ne va pas tourner autour du pot. Si tu veux savoir si tu es bien guidé ou non, regarde le chemin que tu empruntes. Si tu vas plus souvent au café qu'à la mosquée, t'es à côté de la plaque. Si tu vas plus souvent au McDonald's qu'à la mosquée, t'es à côté de la plaque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez quelqu'un qui va souvent à la mosquée, alors témoignez qu'il a la foi. Mais si vous voyez quelqu'un qui scotte la mosquée en permanence, ça veut dire qu'il a la foi. Il est toujours soucieux, dès qu'il a le temps, la possibilité d'aller à la mosquée. Hada, c'est la preuve qu'il a la foi. Par contre, l'autre qui s'en fiche, qui ne calcule pas, qui préfère regarder la télé, qui préfère être au café, qui préfère être dans la rue à parler avec ses copains, ou bien surfer sur Internet, au lieu d'être à la mosquée pour faire ses prières ou autre chose, Hada, sa foi, elle est toute petite, miskine, voire presque nulle, voire inexistante. Donc le thermomètre de la foi, si vous voulez savoir est-ce que vous êtes bien guidé, si vous voulez savoir est-ce que vous avez la foi, regardez votre rapport à la mosquée. Vous êtes d'accord? Le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. C'est Allah qui a voulu que les mosquées voient le jour. Si Dieu ne l'avait pas voulu, il n'y aurait pas de mosquée. Vous êtes bien d'accord? Quand nos parents, ils ont été arrachés de leur bled, ils ont été implantés ici, en dessous de la terre, dans les mines. Est-ce que nos parents, ils ont fait des mosquées? Non. Ça leur a même pas passé par la tête. Ils sont restés 10 ans, 15 ans, 20 ans sans mosquée. Donc, sans prière. Et nos parents, quand ils avaient notre âge, 15 ans, 20 ans, 25 ans, quand ils ont été ramenés du bled, 99% ne faisaient pas la prière. Parce que les pauvres, ils ont été dépaysés. Ils étaient dans un milieu musulman, on les a ramenés dans un milieu non musulman, ils étaient perdus au niveau spirituel, au niveau culturel. Ils ont perdu leur repère. Là, au bled, il y avait des mosquées, ils entendaient l'adhan. Naturellement, ils le faisaient. Tout le monde faisait la prière. Ils arrivent ici, ils regardent à droite, pas de mosquée. À gauche, pas de mosquée. Devant, pas de musulmans. Derrière, pas de musulmans. Il est perdu, miskin. Et quand il va sortir du trou dans lequel il a été mis, où il creuse du charbon, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des cafés, il va aller au café. Ah oui. Ou bien, on va leur mettre des télés. Et on va leur donner des cartes, des jeux, les samedis. Pourquoi? Pour qu'ils s'occupent. Jusqu'au jour où Dieu l'a voulu. Qu'est-ce qu'Allah a voulu? Il a voulu que les mosquées voient le jour. Et entre nous, heureusement que nos parents, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas fait de mosquée. Hein? Dans les années 60, dans les années 50. C'est pourquoi? Parce que s'ils en avaient fait, ma main coupée, qu'ils les auraient renvoyés direct. Ils les auraient têchés sans pitié. Ben oui. Parce qu'il y a certains, tout de suite, ils auraient dit, oh non, 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 non. On a ramené de la main d'œuvre, mais c'est de la main d'œuvre intégriste. Il fallait qu'ils restent comme ça pendant un temps. Et seulement après, des gens sont venus de l'étranger, de l'extérieur. Ben oui. Des gens, ils ont fait 10 000 kilomètres. Ils sont venus en France et ils ont... Hein, vous savez la petite flamme là qu'il y avait dans le cœur de nos parents? Ils l'ont un peu réchauffée, la foi elle est remontée, ils ont retrouvé leur personnalité et les mosquées ont commencé à pousser comme des champignons. Et ils sont remis à faire la prière et à quoi? À évoquer le nom de Dieu dans les mosquées. Malgré le travail, malgré... les responsabilités familiales. Nos parents, ce sont des hommes. Wallah, ce sont des hommes. Vous n'avez pas vu tout ce qu'ils ont subi? Tout ce qu'ils ont vécu? Toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés? C'est pas... ils étaient mariés, ils avaient 10 gosses. Ils étaient mariés, ils avaient 10 gosses, ils avaient une tribu à nourrir au bled. Leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, les oncles, les tantes. Bref, la tribu. Et regardez... ils sont restés musulmans et ils étaient courageux et ils ont construit des mosquées. C'est pas gratuit, hein. Donc là, il faut leur tirer le chapeau. Ils travaillaient 8 heures, 10 heures par jour et ils viennent quand même à la mosquée. Et nous, les jeunes, alors, on ne travaille pas, on ne vient pas à la mosquée, c'est ça? On a du temps libre, on ne vient pas à la mosquée. Quand tu as donné de l'argent pour la mosquée, alors là, c'est la dernière des choses. C'est trop wa'al, ça. C'est trop difficile. On a du mal. Quand tu regardes le nombre de jeunes qui cotisent, tu prends le tableau, il y en a un et demi. pas plus. Les autres, ils cotisent pas. Pourquoi ils cotisent pas? Soi-disant, ils travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Mais le kebab, là, il y a de l'argent. Alors, ouais. Un kebab par jour, voire deux par jour. Tu laisses la bouffe de ta mère. Au moins, elle est halal à 100%. Déjà, deux, elle est saine. Trois, franchement, ça sent bon. Et tu vas, tu bouffes de la viande, tu sais même pas si elle est halal. Et moi, je mets ma main à couper qu'elle n'est pas halal. D'accord? Deux, je mets mes mains, mes jambes, ma tête, tout ce que tu veux. Elle n'est pas bio. Ouais. Elle n'est pas bio. C'est que du gras et de la saloperie. Tu bourres ça de... Ouais. Une américaine, une mexicaine, une chinoise. Ouais. Tout ce qu'il faut pour le cholestérol et pour que tu deviennes un gros bien obèse. Ouais. Et tu bouffes ça avec le sourire. Et tu donnes 5, 6, 7 euros avec le sourire. Et quand il s'agit de donner à la mosquée 10 euros par mois, tu réfléchis 100 fois avant de les donner et tu les donnes pas. Et si tu les donnes une fois, tu les donnes pas deux fois. C'est la réalité ou c'est pas la réalité? C'est la réalité. Vous avez vu comment on s'est fait arnaquer? On s'est fait avoir en beauté. Tu dis aux jeunes, tu cotises à la mosquée? Non. Pourquoi? T'as pas d'argent. Et pourtant, tu le regardes d'en haut jusqu'en bas, c'est que de la marque, sauf lui bien sûr. Tout ce qu'il porte, c'est de la marque. Hein? Tu as la basket, ça commence minimum 70 euros. Et si tu regardes à l'intérieur, même ses sous-vêtements, c'est de la marque. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on s'est fait piéger tout simplement. On s'est fait avoir en beauté. On nous a fait croire dans notre société que pour que tu sois quelqu'un, il faut que tu aies des apparences. Laquelle d'apparence? Celle qu'ils veulent, pas celle que tu veux toi. Wallahi, on est pire que des esclaves. Pire que des esclaves. Tu t'habilles pas comme tu as envie, comme tu veux. Tu t'habilles comme ils ont décidé, comme ils veulent. Vrai ou faux? C'est la vérité. Tu n'as plus le choix de tes vêtements. Parce que tout le monde est habillé comme ça, si tu n'es pas habillé comme ça, c'est la honte. Et si je te dis, donne à la mosquée 50 euros, 100 euros, 200 euros, dois mettre le chauffage, non, tu ne les donneras pas. Mais par contre, tu vas les donner dans quoi? Dans du déguisement, des accoutrements. C'est la réalité de notre jeunesse. Et après, vous voulez que Dieu soit avec nous? Vous voulez que Dieu tienne avec nous? Et sa mosquée, sa maison, on ne la calcule même pas. Si on est 100, 150, on est 200 jeunes aujourd'hui dans la mosquée, garçons et filles. Si chacun donne 10 euros par mois, 200 fois 10, ça fait combien? 2000 euros. Vrai ou faux? 200 fois 10, ça fait 2000 euros. Est-ce qu'on a encore des problèmes d'argent pour la mosquée à 2000 euros? Pourquoi est-ce qu'on ne les donne pas? Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne les donne pas? Parce que Dieu, la mosquée, ont moins d'importance à nos yeux que l'abonnement téléphonique. Tous les jeunes, 99% des jeunes, ils ont tous un abonnement téléphonique. Free. 30 euros par mois. Illimité. Et la mosquée? Combien par mois? C'est illimité la mosquée? Pourquoi tu trouves de l'argent pour t'abonner, internet, portable, et j'en passe, et tu ne trouves pas de l'argent pour la mosquée? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de place dans notre cœur. La mosquée n'a pas de place dans notre cœur. Tout simplement, donne ton abonnement à la mosquée, et après tu fais 10 abonnements, j'en ai rien à cirer. Mais comment tu fais pour mettre Dieu derrière le téléphone? Oh, moi j'en ai attrapé un jour, il m'a monté les nerfs. J'ai regardé le tableau, il ne cotise pas. Je l'attrape une fois, je lui dis, pourquoi tu ne cotises pas? Il dit, je ne travaille pas, je suis érémiste. Je lui dis, alors pourquoi tu as un abonnement? qui t'est remis. Pourquoi tu as l'abonnement alors que, logiquement, elle téléphone, c'est pour travailler, c'est pour. Il me ramène quelque chose. Non, t'es fou. Pour les jeunes, téléphone, c'est quoi? C'est pour chatter. Toute la journée, il faut parler. Il faut parler. Il y en a, ils parlent au téléphone, c'est pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est pas ils parlent parce que c'est nécessaire. Parce qu'il faut qu'ils grattent. Parce que s'il n'y a pas de gratter, il n'est pas bien dans sa peau. C'est réel, hein? C'est réel. Il faut qu'ils parlent 1 heure, 2, 3 heures par jour pour dire « Ah, je les ai bien eus. Mais j'ai jamais un chat. Mais j'ai super. Oui, c'est un plaisir. Je suis rassasié parce que j'ai bien parlé. » Il ne sait pas que pendant 2 heures, il a parlé sur le dos des gens, il s'est moqué. Vrai ou faux, hein? C'est pas on perd notre temps avec le téléphone, c'est qu'on fait des péchés avec le téléphone. Normalement, le téléphone, c'est allô, oui, ceci, cela, boum, tu l'éteins. Non. C'est plus je reste longtemps, plus je vais bien. Et si tu dis aux jeunes, viens à la mosquée travailler 1 heure par semaine, ah, j'ai pas le temps. Et il donne 2 heures de téléphone par jour. Ça, c'est tout le téléphone. Maintenant, s'il a Internet, dis-toi la haraj. C'est minimum 3 à 4 heures d'Internet par jour. Si seulement c'était Internet pour développer son intelligence, pour son business. Mais c'est Internet pourquoi? MSN, c'est ça? Les chats, c'est les discussions. Les garçons avec les filles. Toujours, hein? Et les filles avec les garçons. Regardez comment Shaitan il joue avec nous. On trouve du plaisir pendant 2 heures à parler avec une meuf. Et certains disent, ouais, mais je lui parle de l'islam. Subhanallah. Quand je lui parle de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne te retrouve jamais seul avec une femme, même si tu dois lui enseigner le quoi? Le Coran. Si vous êtes à 2, c'est qui le troisième? Pardon, c'est Omar ibn Abdel Aziz qui a dit ça. C'est le calife Omar. Il a dit, ne reste jamais seul avec une femme, même si tu dois lui enseigner le Coran. Et maintenant, on est seul, pas avec une femme, avec 10 femmes sur Internet, à quelle heure? À 4h du matin. Ouais. Ah oui, nos jeunes, ils dorment plus maintenant. Il faut qu'il y ait des veillées spirituelles, mais pas dans la prosternation. Pas dans la prosternation. Wallah, c'est un piège de Shaitan. On s'est fait avoir. Réveillez-vous. On s'est fait avoir. Tu vas rester jusque 2h du matin sur Internet. Dans des sites haram, ok? Il y a des mecs, ils ont divorcé de leur femme, hein? Ils ont 2, 3, 4, 5 gosses. Ils ont laissé tomber leur femme pour une. Heureusement qu'on est à la mosquée. Non, ma dako, ça c'est la réalité. Pire, des meufs, elles ont quitté leur mec. Musulmane, elle faisait la prière. Elle a laissé tomber son mari parce qu'elle a fait connaissance avec un bon musulman sur Internet. Elle est partie vers lui parce que son mari, c'est pas un bon musulman. Ouais. On n'est plus en sécurité chez nous. Shaitan, alatullah, allez, il est rentré dans notre intimité, dans ton lit. Toi, t'es là à la mosquée ou là, t'es chez toi, tu dors. Ton fils, il est dans sa chambre, dans son lit. Il n'est pas en train de dormir, il a mis son portable comme ça. Et il parle pendant 1 heure, pendant 2 heures. Avec qui? Avec la copine avec qui il a passé 8 heures la journée. Ils font pas des maths, hein, mais de la physique. Ah, ça, je vous le garantis. Tu parles avec qui? Avec mon copain de classe. Tu parles de quoi? Tout ça, ça nous empêche d'être à la mosquée. La preuve, est-ce que tu es capable? Justice, ouais. Juste une question d'équité et de bon sens. Tu donnes 2 heures par jour au téléphone et internet dans le roi, dans le vide, pour pas dire dans le haram. Est-ce que tu es capable de donner 2 heures tous les jours à la mosquée? Bon, j'exagère. Pas 2 heures par jour à la mosquée, c'est trop demandé. 2 heures par semaine. Pourquoi tu donnes 2 heures par jour multiplié par 7, 14 heures? Ça, c'est le minimum, hein, c'est le plus nul parmi nous. À ça, et tu ne donnes pas 2 heures par semaine à la maison d'Allah. Ben, c'est tout simple. Tu sais Allah ce qu'il va faire? Ben, il va se comporter avec toi de la même manière. Tu l'as calculé 1 seconde par semaine, mais il va te calculer 1 seconde par semaine. Et si tu respires, dis alhamdoulilah. Hein. On n'a que ce que l'on mérite. La mosquée, notre religion, elle passe au second plan. Elle a moins d'importance dans notre tête et dans nos cœurs que les bêtises d'aujourd'hui. Parce que tout ça, ce sont des bêtises. Tout ça, c'est pour nous pousser à consommer. À dépenser. Ouais, à gaspiller notre argent. C'est ça l'objectif. Alors, في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. Allah a voulu que les mosquées voient le jour. Pourquoi? Pour que des gens à l'intérieur de ces mosquées fassent quoi? Adorent Dieu. À travers la lecture du Coran, à travers le zikr, à travers l'enseignement de la religion, à travers les discussions utile et intelligente entre eux, les personnes à la mosquée pour qu'ils avancent et qu'ils évoluent. Ils discutent pour faire le bien, pour répandre le bien. Voilà pourquoi les mosquées, Allah a voulu qu'elles voient le jour. Fihi rijal. Il y a dans ces mosquées quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les mosquées? Des hommes. Pas des hommes au sens masculin, des mâles. Des hommes, c'est-à-dire des gens qui ont des principes, hein? Des gens qui ont des qualités. Hein? On se dit, hein, c'est un homme. Ça veut dire quoi, c'est un homme? Ça ne veut pas dire c'est un mâle. Ça veut dire c'est quelqu'un de grand. Fihi rijal, regardez. La tulhihim tijaratun. وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Ces hommes qui fréquentent la mosquée, ces femmes qui fréquentent la mosquée, ne sont pas détournés. Hein? Ils ne sont pas détournés de leur objectif qui est adorer Dieu, se rappeler Dieu à la mosquée et en dehors de la mosquée. Ils ne sont pas détournés par quoi? Par le téléphone? Par Internet? Par la télé, ils ne sont pas détournés par le commerce. Regardez, subhanallah, le Coran, il nous dit, normalement, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un d'aller à la mosquée? Qu'est-ce qui va empêcher un musulman d'aller à la mosquée? Vous savez que c'est quoi, normalement, qui devrait l'empêcher d'aller à la mosquée? C'est son travail, ses études. Mais ces hommes qui travaillent, qui font leurs études, dès qu'il a 2 secondes, il court pour aller à la mosquée. Dès qu'il est en week-end, le soir, bref, dès qu'il a un trou, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit ce trou par sa présence à la mosquée, par une activité à la mosquée. Mais en vérité, le Coran, quand il dit « ces hommes ne sont pas détournés par leur occupation », aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche d'aller à la mosquée? C'est pas le travail, c'est pas l'école. C'est ce que je vous ai dit, c'est la télé. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps dans une mosquée. J'avais l'habitude, hein, tous les 15 jours, de faire une conférence dans cette mosquée, une grande mosquée. Et c'était plein Ramadan. Samedi, plein Ramadan, Paris, à votre avis. La mosquée, elle est elle est blindée. Ce samedi-là, bizarrement, la moitié de la mosquée est vide. Je dis, bon, il devait y avoir des grèves, le métro qui ne marche pas, les voitures sont tombées en panne. J'ai fait ma conférence. Et à la fin de la conférence, j'ai demandé à un pote, je lui dis, t'as remarqué, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Il manque la moitié. Il dit, c'est normal. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Je lui dis, non. Il dit, il y a Tunisie-Maroc. Match de foot. Vous vous souvenez Tunisie-Maroc? Les dernières. Plein Ramadan, Tunisie-Maroc. Vous avez vu les musulmans? Vous avez vu, Allah, ils ne vont même pas un ballon de foot à leurs yeux. La mosquée ne vaut même pas un ballon de foot à leurs yeux. La science ne vaut pas un ballon de foot à leurs yeux. Je jure notre religion, on est prêt à quoi? À la brader pour une bêtise. Alors que le Coran dit, on n'est pas détourné de la mosquée par notre travail, notre commerce, nos études. Non. Nous, qu'est-ce qui nous détourne de la mosquée? Un match de foot. Pire! Astaghfirullah. Bon. Le foot, ça se comprend un peu, hein? Dans le berceau, on joue déjà au foot, c'est ça? Non, maintenant, tu sais qu'est-ce qui les détourne aux jeunes? De la mosquée? Le rugby! Un match de rugby! Là, 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 ce ramadan, là. Ouais. On était à la mosquée. Ils sont où, les jeunes? Il y avait France. Non, c'était France... Nouvelle-Zélande. Alors, ils ont disparu, les jeunes. Ils sont pas là. Ils ont été détournés de la mosquée par le rugby. Et demain, je suis sûr qu'ils vont être détournés de la mosquée par le tennis. Hein? Et après, ils vont être détournés de la mosquée, le golf. Hein? Et demain, ils vont être détournés de la mosquée par une course de chiens. Il ne faut pas grand-chose. Allah, on est très faible, très fragile. Vous entendez? C'est pour ça, qui c'est qui va remplir la mosquée? Ceux qui croient en Dieu. C'est ça? Ceux qui ont la foi, ceux qui craignent Dieu. Ceux qui sont faibles, en deux secondes, ils sont détournés de la mosquée. Donc, إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Troisième verset du Coran, les mosquées, elles appartiennent à qui? C'est-à-dire, la mosquée n'a pas de nationalité. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir en France certaines mosquées qui ont une carte d'identité. Ah oui, moi je connais, je vois, les mosquées, mosquées marocaines, mosquées algériennes, mosquées turques, mosquées sénégalaises. Encore, mosquées turques, je comprends. Parce que les Turcs ne parlent pas l'arabe et ne comprennent pas l'arabe. Donc je me mets à la place du Turc qui vient. Et t'as un imam qui parle arabe, il est là pendant une demi-heure, un quart d'heure, une heure, il pète les plombs parce qu'il n'y comprend rien. Donc il se bat, il fait sa mosquée, il ramène son imam turc qui lui parle en turc. Ça s'explique, ouais. Mais comment tu m'expliques deux arabes qui parlent le même arabe, qui comprennent le même arabe, et ils font deux mosquées? Une comme ça, une comme ça. Comment vous m'expliquez ça? C'est pas de la bêtise? C'est pas de la stupidité? C'est pas de la jahiliya, de l'ignorance? C'est ça l'islam? L'islam dit les mosquées appartiennent à Allah. Et Allah n'a ni couleur, ni nationalité. Et les musulmans aujourd'hui, certains te construisent des mosquées, pas pour Allah, mais pour mettre en valeur leur dimension tribale. Parce que j'ai vu en France une mosquée où ils se sont bouffés la gueule, vous entendez? Et ils se sont préparés, pas parce que c'est des Marocains et des Algériens, c'est pourquoi? Parce que ce sont tous les deux des Marocains. Et oui. Alors les uns, ce sont des soi-disant Arabes et l'autre des Berbères. Et voilà. Alors c'est grave ou c'est pas grave? c'est doublement grave. C'est très grave. C'est pour cela la mosquée, elle est neutre. Elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de nationalité. Elle n'a pas d'origine. Les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. Et on n'a pas le droit, à l'intérieur de la mosquée, comme dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire du commerce, du business. Celui qui fait du commerce à la mosquée, dites La barakallahu laka fi tijaratik. Allez, faites une dua pour qu'il se casse la gueule. Pour que son business se plante. Ben aujourd'hui, tu rentres dans des mosquées juste avant le ramadan, hein, tu trouves plein de traces. Pub. Pub pour la Omra, pub pour le Hajj. C'est ça? Toi, tu te fais une pub pour les dates. Oui. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que la mosquée n'a pas été construite pour le business. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va se bouffer à l'école, on va se disputer, ça va être de la concurrence à l'intérieur. Donc faites attention. Il faut que les mosquées restent loin de quoi? De tous les problèmes qui sont à l'extérieur de la mosquée. Les problèmes de racisme, de nationalisme, de tribalisme, de business. Non, ça reste dehors. Quand on vient à la mosquée, ça doit être la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous allez à la mosquée, ne courez pas. C'est ça? Pourquoi? Comme ça, quand vous arrivez à la mosquée, vous n'êtes pas essoufflé. Parce qu'il faut faire la prière en étant en repos. Conclusion, tout ce qui pourrait perturber la stabilité à la mosquée doit être à l'extérieur. Très bien. Écoutez ce hadith qui est magnifique. C'est l'imam al-Bukhari radiallahu anhu qui le rapporte. Donc c'est un hadith sahih authentique. Personne ne peut dire qu'il est faux. Il est vrai 100%. Il dit qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée du prophète, une femme. Cette femme, elle faisait quelque chose de particulier. Elle passait l'aspirateur. Dans la mosquée du prophète, elle se mettait debout et elle ramassait, ouais, elle balayait, elle passait l'aspirateur pour que la mosquée reste propre. Parce qu'il y a des gens qui, ouais, qui salissent, consciemment ou inconsciemment. Elle, toute seule, vous savez ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, la mosquée doit être propre. Ouais. Juste ta maison, elle est propre. Vous aimez bien votre maison quand elle est sale, hein? Franchement. T'aimes pas. Tu veux que ta maison soit propre. Bah, la mosquée d'Allah, elle doit être quoi? Mon œil. Va voir les toilettes des mosquées. Tu rentres dans les toilettes des mosquées. Et je te le jure, certaines mosquées, tu veux faire tes besoins, tu te barres. Tu les fais plus. Tu les fais plus, ça t'a cassé. Je te dis pas l'odeur, mais alors là, je te dis pas l'hygiène, la propreté. Il n'y en a pas un qui va se dire, je vais nettoyer les toilettes. Pas un. Tout le monde voit ça et tout le monde s'en fiche. Alors si c'était tes toilettes chez toi, qu'est-ce que tu ferais? T'accepterais ça chez toi? Pourquoi t'acceptes alors à la mosquée, les toilettes de la mosquée, pourquoi t'acceptes qu'ils soient dans cet état? Un, je condamne ceux qui salissent et qui nettoient pas. Quand tu vas dans tes toilettes chez toi, tu salis, tu mets de l'eau, tu nettoies tout de suite. Non, en vérité, on ne nettoie pas. Maman, elle passe derrière, elle nettoie. Mais t'as une petite soeur. Finalement, les hommes, on a été élevés pour pas travailler. Vrai ou faux? À la maison, c'est haram de bosser. Hein? Le boulot à la maison, c'est pour les meufs, c'est pas pour les mecs. C'est comme ça qu'on a été élevés. Ah là, je vous ai déjà vu votre père nettoyer par terre? Vous l'avez déjà vu faire la vaisselle? T'as déjà vu, tu rentres de l'école, tu trouves ton père dans la cuisine en train de préparer à bouffer? Jamais. Parce que c'est pas dans la culture, c'est pas dans l'éducation. Nous, on a grandi comme ça. On s'imagine pas. Vous êtes déjà réveillé un samedi matin, un dimanche matin. Est-ce que vous êtes déjà réveillé, puis vous avez dit, bon, je vais faire le ménage de la maison de haut en bas? Les mecs, les garçons. Mais tu te réveilles le dimanche matin, c'est direct téléfoot. Vrai ou faux? C'est, tu bouffes, téléfoot. Par contre, ta sœur, elle se réveille le dimanche matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ménage. De haut en... Nous les mecs, non, je, quoi? Bosser à la maison, t'es fou toi. C'est un péché. C'est honteux, t'es un homme, t'es un rage. Tu vas pas faire un boulot de femme. C'est comme ça qu'on a été élevé. Hein. Certains, quand ils veulent faire, leur mère leur dit laisse, ne fais pas. Ouais, ça c'est... Même dans la mentalité de certaines femmes, le mec il doit pas faire. Et ça c'est mortel ça. Vous savez pourquoi c'est mortel? Parce que c'est contre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit à Aïcha, radiallahu anha, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, comment était le prophète chez lui dans sa maison? Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors je le dis ou je le dis pas? Je le dis? La religion, c'est quand ça nous plaît, quand ça nous... Non, normalement, ça doit nous plaire. Normalement, dans la religion, il n'y a rien qui ne doit pas nous plaire. Tout nous. Alors, quand ça nous arrange et quand ça nous... Ah non, la religion, ça nous arrange. C'est quoi alors le problème? Allah, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'a dit Aïcha, radiallahu anha? Elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était chez lui, كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ. C'est ce que ça veut dire en français? C'est-à-dire, il bossait avec sa femme. Il balayait sa maison. Il cousait ses vêtements. Eh oui. Nous, comme on n'a pas été élevés, éduqués comme ça, quand on va dans les toilettes de la mosquée, on rentre, c'est dégueulasse. Il n'y en a pas un qui va se dire, je vais nettoyer, c'est sale. C'est, voilà, rien à foutre. C'est pas mon problème. Comme si la mosquée, elle avait une femme de ménage payée. Ouais. Pour passer derrière et nettoyer. Hey, si c'est ça la solution, je veux bien. On prend une femme de ménage, il faut cotiser, bien sûr. Hein. Pas 10 euros. Hein. Femme de ménage, il faut la payer convenablement, il faut la déclarer. Donc on va donner 30 euros par mois chacun. Comme ça, il y a une femme de ménage qui fait son boulot. Tous les soirs, elle te nettoie les toilettes que tu as salies. Mais est-ce qu'on va le faire, ça, payer une femme de ménage? Est-ce qu'on va le faire? Alors, on salit. On nettoie pas et on ne paie pas. Conclusion, l'état des toilettes des mosquées, wallah, si l'hygiène passe, les mosquées sont fermées. Les mosquées sont fermées. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand il est parti au champ Carrefour, je ne fais pas de pub, parti faire ses courses, qui s'est dit, tiens, je vais acheter ça pour la mosquée. C'est les petits trucs qu'ils font maintenant. Tu l'accroches, tu l'ouvres, il y a du... une bonne odeur qui sort. C'est les odorisants. Ouais. Vous voyez ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé? Qui a dit, je vais acheter ça, puis je vais le ramener à la mosquée. Pas, tu l'accroches là. Moi, je suis rentré dans une mosquée en France. J'ai fait... Je suis dit, Allah Akbar, qu'est-ce que ça sent bon. Pour une fois, je sens pas les chaussettes. Des gens, la moquette qui chlingue à 10 km. Comme Tarko. Ouais. Que, hein? Mais c'est pas honteux, franchement, c'est pas honteux. Parfois, on va, tu te prosternes, t'as intérêt de te prosterner en apnée. En apnée. Alors là, si le mec est asthmatique, il faut appeler les pompiers. Il y a les pompiers directs. Vous rigolez, mais vous ne trouvez pas que c'est honteux? La mosquée de Dieu, on la salit et on ne pense pas à la nettoyer. Alors que, vous savez qu'est-ce que ça va nous coûter de la nettoyer, la mosquée? Vous voulez que je vous le dise? Regardez, ça va nous prendre 10 minutes. On prend une feuille. Allez, levez la main. Chacun à son tour. Tous les vendredis matin, les samedis matin, je m'en fiche le jour, on choisit un jour. Deux personnes pour faire le nettoyage de la mosquée de haut en bas. Deux personnes. Allez, on prend les noms. Toi et toi. Première semaine. Deuxième semaine. Vous deux. Allez, troisième semaine. Quatrième semaine et on l'accroche. Alors pour nettoyer, il nous faut tel produit, tel produit, tel produit, tel produit. Ça va nous coûter 200 euros. On est 50, chacun 40 centimes. Il suffit de s'organiser. Et vous savez qu'est-ce qui va nous arriver ? On va venir à la mosquée, on va faire des hasanats puisqu'on va bosser à la mosquée, la mosquée sera propre et chacun se sentira responsable. Et quand tu vas avoir un mec qui déconne à la mosquée, tu vas dire « Oh, allez, ramasse, hein, c'est moi qui nettoie. » Ah, c'est plus la même chose, hein ? Mais non, wallah, on rentre quand on rentre et on sort souvent et on se préoccupe pas, on s'en fiche, on calcule pas. Alors que c'est la maison d'Allah. Alors que tu t'imagines, tu es en train de nettoyer la maison de Dieu. Comment Allah il va te regarder ? Est-ce qu'il va te regarder de la même manière que l'autre qui la nettoie pas ? Est-ce que tu vas avoir le même poids que celui qui la nettoie pas ? Bah écoutez cette histoire. Il y avait une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait chaud chez vous, hein ?
Ouais.
Vous avez allumé le chauffage ? Non, c'est la chaleur humaine, c'est la présence. Eh bien, c'est moi qui commence à m'énerver. Il faut que je me calme. Waouh ! Cette femme, toute seule, il n'y a personne qui lui a dit, hein ? Vous entendez ? Elle l'a vu que dans la mosquée, il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place. Et elle se mettait à nettoyer la mosquée d'elle-même, avec ses propres moyens. Elle n'a pas entendu qu'on lui donne un ordre. Elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui jette quelque chose à la mosquée a commis un péché. Celui qui ramasse a commis une... » Donc si elle ramasse 5 ongles par jour, vous n'avez jamais vu dans la mosquée ? Moi, ça m'est arrivé à la mosquée, je regarde la mosquée, c'est quoi ça ? Je me rapproche et je sors un ongle. Il fait 40 cm. Il est marron, noir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs qui sont assis, ils s'ennuient, ils font ses ongles dans la mosquée. Ils enlèvent un ongle par-ci, un ongle par-là. Vous rigolez. Mais c'est la réalité. Et ils le jettent par terre dans la mosquée, ibadallah. Moi j'ai vu pire. Vous savez qu'est-ce que j'ai vu ? Mais là je vais vous écœurer. Vous êtes prêts ? Non ? Vous n'êtes pas prêts ? Bah, buvez un coup, puis après... Allah est témoin, dans une mosquée, je ne la cite pas parce que je ne veux pas la balancer, ça s'appelle un Quds. J'ai vu un mec, et le mec il a fait l'adhan. Au moment de l'iqama, Allahu Akbar, qad qamati salah, wallah, le mec il s'est mis debout, il a fait ça, il a tiré sa lèvre, il a sorti. Hein ? Vous voyez quoi ? Ça s'appelle, non, en français on dit comment, une prise, un gros molard, bon, chemin, c'est une grosse touffe. Il l'a sorti, il a soulevé la moquette au niveau du mur et l'a mis là en dessous. Moi qui vous parle, j'ai assisté à la scène, j'ai regardé comme ça, je suis resté handicapé. Je dis c'est pas possible, Yara, c'est pas possible, on est où? Il ne faut pas vous étonner, hein. C'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, il y a quelqu'un, le prophète il sort, hadith sahih dans le Bukhari. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit sur le mur de la Qibla un molar. Hadith sahih. Le prophète voit sur le mur la Qibla un molar. Qu'est-ce qu'a fait le prophète ? Il a pris une branche, il est parti nettoyer lui-même. Le prophète lui-même, il a nettoyé le truc des autres. Il était rouge, le prophète. Et vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, quand vous faites la prière, vous êtes devant Dieu. Dieu est en face de vous. Alors si vous voulez à tout prix cracher, bon sang, prenez votre mouchoir, crachez dedans. Sinon, si vous devez cracher par terre, vous crachez par terre en dessous de votre pied gauche et vous enterrez votre molar. Au temps du prophète, il n'y avait pas de tapis, c'était du sable. Donc tu fais un petit trou, tu craches et tu bouches. Regardez-nous comment on crache aujourd'hui. On ne sait même pas cracher avec... prophète, il y a vu ça. Il y a vu ça dans le mur de la Qibla. Un mec qui a envoyé un mot là. Vous n'arriverez pas à vous cracher aujourd'hui, hein. C'est vrai. Oui, mais avant, c'était les gens, ils crachaient comme ça. Mais aujourd'hui, on fait la même chose que lui. La preuve, on va manger, on va jeter plein de choses par terre, et on ne va pas les ramasser. Hein? Cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nettoyait la mosquée sans que personne ne lui ait dit. Toute seule, sa foi, sa prise de conscience que la mosquée appartient à personne mais à Dieu, et que nous sommes tous responsables dans la mosquée, et qu'on a tous un rôle à jouer dans la mosquée, pour que la mosquée aille vers le haut et non pas vers le bas, cette femme toute seule, « Kanat taqumul masjid » dit le hadith. Elle balayait, elle nettoyait la mosquée. Puis un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarque que cette femme, elle ne nettoie pas. Elle ne passe pas l'aspirateur. Il dit à ses compagnons, elle est où? Leur dit le prophète, elle est morte. Il dit, comment ça, elle est morte? Oui, elle est morte cette nuit et on l'a enterrée. Il dit, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Tu dormais, prophète, on ne voulait pas te réveiller. Tu dormais, on ne voulait pas te réveiller en plein milieu de la nuit pour faire la prière sur cette femme. Alors qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a enterrée tout de suite. Il a dit, venez avec moi, montrez-moi où vous l'avez enterrée. Il est parti au cimetière. Ils lui ont montré sa tombe. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait la prière sur cette femme. Et quand il a fini de prier pour cette femme, il a dit à ses compagnons, je le jure par Allah, que je la vois à l'instant dans son palais au paradis en train de ramasser des perles. Voilà. Vous savez ce qu'elle faisait sur terre? Elle ramassait zbel, les salissures, les bouts de papier, les ongles, des autres. Regardez ce qu'Allah lui a donné. Hein? Sa mosquée, c'est devenu un palais au paradis. Et qu'est-ce qu'elle fait au paradis? Elle ramasse des perles. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Si chacun se dit, je vais faire quelque chose à la mosquée, je vais nettoyer les toilettes, je vais passer l'aspirateur, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de nettoyer rien, je vais donner 30 euros. Et ces 30 euros, ils iront pour les produits. Chacun doit se dire, qu'est-ce que je fais à la mosquée? Qu'est-ce que j'apporte à la mosquée? C'est une femme. Où sont les hommes? Regardez les femmes au temps du prophète, comment elles étaient. Hein, elles étaient à la mosquée. Vrai ou faux? Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'était un homme très jaloux. On lui a dit, ya Omar, tu es quelqu'un de jaloux et tu laisses ta femme aller à la mosquée? Omar leur dit, ah, j'ai pas le choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée. Et je voudrais bien qu'elle n'aille pas à la mosquée. Mais la religion, c'est quand ça plaît, quand ça... Vous avez dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si vos femmes veulent aller faire la prière de la nuit, la Isha, et la prière du matin, Subha, à la mosquée, ne les empêchez pas, punaise. Vous vous rendez compte, au temps du prophète, les femmes, elles allaient faire la prière de la nuit, la Isha, et la prière du Subha à la mosquée. Eh oui, il y a certains musulmans trop jaloux qui voulaient arrêter ça, le prophète leur a dit, stop! C'est la maison d'Allah, elle est ouverte à tout le monde. Et aux femmes. Et attendez, et les femmes autour du prophète, elles allaient à la mosquée, libres. Elles n'étaient pas enfermées à la mosquée. Elles étaient derrière les hommes. Les hommes devant, les femmes derrière. Il n'y avait pas de voile entre les hommes et les femmes. Il n'y avait pas de mur. Eh oui, regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de nos mosquées. Il y a encore certaines mosquées en France aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les femmes. Et la plupart des mosquées en France aujourd'hui, les femmes sont isolées, entre quatre murs. Si bien que quand tu fait le Jumu'a ou tu fais une conférence, ça parle chez elles parce qu'elles ne peuvent pas se concentrer, elles ne voient rien du tout. Et quand tu dis au mec, tu mets les femmes derrière, les hommes devant, il dit ah non, 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 il ne faut pas mélanger les hommes et les femmes. Il est plus royaliste que le roi. Alors qu'au temps du prophète, il a mis les femmes derrière, les hommes devant. Franchement, on est plus royaliste que le roi. Une fois, je suis allé dans une ville en France, pourquoi vous la citez, Montargis, pour faire une conférence. J'ai pété une durite. Ils m'ont rendu fou. Je rentre dans la mosquée, je veux commencer ma conférence. Je leur dis, j'ai une question à vous poser. Comment vous faites pour mettre au monde que des garçons? Vous n'avez pas de filles? Ils disent, si, si, on a des filles. J'ai dit, sont vos filles? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ben, il n'y a pas de place à la mosquée pour les femmes. Quand ils disent, quoi, il n'y a pas de place? La mosquée, elle était pleine à moitié, donc l'autre moitié était vide. Il dit, ben, s'il y a de la place, regardez derrière. Ils disent, ouais, mais nous, on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes. Je dis, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. Le pire, c'est le dernier. Le meilleur des rangs pour les femmes, c'est lequel? C'est le dernier. Et le pire, c'est le. Et vous, vous ne voulez pas mettre les femmes derrière? Alors que le prophète les mettait derrière. Et qu'est-ce qu'il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit aux femmes, quand on est prosterné, quand je dis Allahu Akbar pour revenir de la prosternation, vous les femmes, restez un peu plus longtemps prosternées. Comme ça, les femmes qui sont collées aux hommes derrière, elles ne se remettent pas debout en même temps que les hommes. Elles attendent un peu que les hommes s'assoient et seulement après elles se remettent debout pour éviter que les femmes voient peut-être par accident les parties intimes d'un homme car avant ils n'avaient pas beaucoup de vêtements. Choufou, subhanallah. Il y avait un problème, le prophète il l'a résolu en disant vous restez prosterné un peu plus longtemps. Farfat. Il m'a dit ouais, mais faut pas mélanger les garçons et les femmes. Je lui dis subhanallah, vos filles, elles vont à l'école mélanger avec les garçons pour apprendre la théorie de Darwin, qu'on vient d'un sage. Et vous voulez pas qu'elles viennent à la mosquée pour apprendre la théorie d'Adam qu'on vient de Adam et Ève. Vous avez vu comment on est scellé? Vous avez vu comment on est à côté de la plaque? Après, on s'étonne que nos jeunes sœurs, que nos jeunes filles sont loin de la religion. C'est normal. Elles ne trouvent pas leur place à la mosquée. Et quand elles sont à la mosquée, elles sont sur la touche. Elles n'ont pas de valeur et d'importance. Alors que les femmes travaillaient à la mosquée au temps du prophète, alayhi salam. Elles ont dit, ya Rasulallah, les hommes, ils ont plus de chance que nous, ils te voient plus souvent. On voudrait t'accaparer au moins un jour. Il a dit, choisissez le jour que vous voulez. Elles lui ont dit, le jeudi. Ben, le jeudi, le prophète, il passait son temps avec les femmes pour leur enseigner la religion. Mais elles étaient à la mosquée. Elles étaient présentes. Elles étaient engagées à la mosquée. Qu'est-ce que dit Rubaïa? Elle dit, pendant le ramadan, on faisait faire le ramadan aux petits enfants, et quand ils avaient faim, pour leur faire oublier la faim, on les emmenait à la mosquée, et on les faisait jouer à la mosquée. Pourquoi? Pour qu'ils oublient. Eh oui. Les femmes, elles doivent être présentes à la mosquée. Elles doivent ramasser comme l'a fait cette femme. Vous savez, elles viennent un jour, elles nettoient. Elles viennent un jour pour apprendre. Elles viennent un jour pour s'asseoir entre elles pour discuter. Elles viennent un jour pour faire une crèche, telle activité. Elles doivent être présentes à la mosquée pour que la mosquée soit vivante. Car une mosquée où il n'y a pas de femmes, une mosquée où il n'y a pas d'enfants, c'est une mosquée qui est morte. Elle est vouée à sa disparition, même si les murs restent. Mais ce qui fait une mosquée, ce ne sont pas ces murs. Ce sont les gens qui sont dedans, les hommes, les femmes et les enfants. Pour faire quoi dans la mosquée? La prière, le zikr, l'apprentissage de la religion, l'enseignement de la religion. Et quoi encore? Tout ce qui est bon et utile pour la communauté musulmane. Et oui, tout! Toutes sortes d'activités qui sont bonnes et utile pour la communauté musulmane. Par exemple, les samedis soirs, au lieu de laisser nos jeunes traîner dans la rue, s'ennuyer ou bien sur internet, bah, tous les samedis soirs, vous faites une soirée à la mosquée. Les jeunes y viennent, on fait un petit barbecue de temps en temps, on fait des boissons, on fait un thé, on fait une petite conférence, on fait une projection vidéo sur un thème,
ou tout simplement on se rencontre et on discute et on parle et on rigole et on s'amuse et on pleure. Et après on rentre chez nous. Si on n'est pas occupé ici, Shaitan s'occupe de nous là-bas. Vous entendez? À la mosquée, on fait des cours de soutien, des cours de maths, des cours de français, d'histoire, de géo. Les grands après nos petits. À la mosquée, on fait des cours, des ateliers, ateliers de cuisine. Pourquoi vous rigolez? Prenez les petits là qui ont 10-15 ans. Ouais? Faites, vous avez une cuisine. Tous les samedis, vous faites des petits groupes. 5. Ce samedi, ce petit groupe, il va faire des crêpes. 200 crêpes. Ils apprennent à faire des crêpes, à les faire cuire et à servir. Wallah, vous allez développer chez eux quoi? L'amour du travail, la responsabilité. Mais vous allez surtout développer chez eux, vous savez quoi? Donner aux autres fisabilillah, servir. On n'élève pas nos enfants à être au service de qui? De leurs frères musulmans, au service de l'humanité. Quand on vient à la mosquée, nous sommes des cons. C'est pas fini, hein? Des consommateurs. Quand on vient à la mosquée, nous sommes des consommateurs. Et celui qui consomme, ben il est en bas, il est la main qui reçoit et non pas la main qui donne. Nous devons à la mosquée être des producteurs. Vous entendez? Ça suffit de rester dans les gradins et regarder les gens jouer, marquer des buts. Il faut descendre sur le terrain, jouer et marquer des buts. Et c'est pas difficile, regardez, vous êtes 100. Wallah, si vous faites 10 groupes de 10, vous, votre boulot, c'est le premier samedi de chaque mois, vous nous faites une soirée, vous l'organisez, vous l'animez. Vous la deuxième, vous la troisième, vous la quatrième. Vous la cinquième, vous la sixième. Voilà, pour l'année. Ensuite, vous, là, il y a des licenciés, il y a des maîtrises, il y a des docteurs. Vous allez prendre en charge 5 gosses, chacun, et leur faire des cours de rattrapage de soutien une fois par semaine, parce que ça ne va pas à l'école. Vous, c'est ce que vous allez faire? Vous allez nous faire un petit club de foot ici à la mosquée. Bref, il y a mille et une choses à faire dans la mosquée, de la mosquée vers l'extérieur, pour que la mosquée soit vivante. Et si vous ne faites rien, c'est vous qui serez perdant. Et si vous ne faites rien, les mosquées vont devenir des coquilles vides. Des coquilles vides. Alors que la mosquée, c'est là où l'islam est né et c'est de là que l'islam est sorti vers l'extérieur. Je vais m'arrêter ici parce que je suis très bavard. Vous n'avez pas remarqué? Non? Et puis je prends la tête aussi de temps en temps. Peut-être que vous avez des choses à dire, des remarques à faire, des critiques, des suggestions. Comme on est en démocratie, chacun a le droit à la parole. On est d'accord? Donc vous êtes libre de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez. L'objectif, c'est qu'on sorte, Inch'Allah, de la mosquée ce soir en ayant mieux compris notre religion pour mieux la pratiquer et mieux l'exprimer sous toutes ses formes. Wallah alam, walhamdulillahi rabbil alamin. À vous la parole.
Jazakallah khair. Donc, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions? Donc, soit avec un petit papier, ou la personne peut prendre la parole directement. Donc, on va voir si, s'il y aura aussi des sœurs, parce qu'il y a les sœurs en bas. Donc, pas de questions? Donc, vous avez tous compris, quoi.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Comme ça, je peux me barrer tout de suite.